Abraham, l'ami de Dieu. Êtes-vous un fan de Jésus ou un ami de Jésus? Il y a une grande différence entre un fan et un ami. Un fan, selon le dictionnaire, c'est un admirateur enthousiaste. Le fan, il adule la star. Le fan, il possède le t-shirt. I love Jesus. Le fan, il a le poster, il a le CD, il a les vidéos. Le fan, il suit tous les déplacements de la star. Il essaie de s'en approcher pour un autographe ou pour un selfie. Mais la star ne connaît pas le fan. Elle n'a pas de relation personnelle avec son fan. Et le fan n'a pas de relation personnelle avec la star. En tant que chrétien, on peut aussi être un fan de Jésus. On peut être avoir le t-shirt. On peut avoir le poster qui va bien. On peut avoir les versets sur les murs de nos maisons. On peut écouter la musique chrétienne. On peut venir à l'église et en réalité manquer d'être un ami véritable de Dieu, un ami de Jésus. Vous ne pouvez pas être ami de quelqu'un sans qu'il le sache. Forcément, l'ami, il sait que vous êtes son ami. Et forcément, il y a une réciprocité, alors qu'il n'y a pas de réciprocité quand on est fan. Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 23, Jacques dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » La Bible dit « Abraham a été appelé ami de Dieu, parce qu'il a cru en Jésus, parce qu'il a cru en Dieu. » Parce qu'il a placé sa confiance en lui. Et je crois que le chapitre 18 de Genèse révèle particulièrement cet aspect de l'amitié de Dieu avec Abraham. Le chapitre 18 qu'on vient de lire commence comme le chapitre 17 par une apparition de l'Éternel. Vous avez vu ça au verset 1, il est dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré » quand il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et donc, ici, l'auteur il répond par anticipation à la question qu'on se pose lorsqu'on fait la lecture de ce récit. Mais qui sont ces trois hommes qui sont venus voir Abraham? Eh bien, la réponse, c'est l'Éternel. Il est dit, chapitre 18, verset 1, l'Éternel lui a paru. Et puis, c'est ce qui est montré aussi dans les versets 10, lorsque, après avoir parlait beaucoup au pluriel, verset 10, il dit « L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et voici ta femme aura un fils, Sarah, écoutez à l'entrée de la tente, etc. » Et puis, verset 13, ce même homme-là, il est dit « L'Éternel dit à Abraham. » Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Et vous imaginez bien la scène. Ils sont là, à l'ombre, là, sous les arbres. Derrière eux, il y a la tente d'Abraham, et il y a Sarah qui s'affaire là. Et puis, l'Éternel dit à Abraham, « Où est Sarah ?» Il dit, « Dans la tente, là. » Et pourquoi est-ce qu'elle a ri? Donc, elle a juste pouffé intérieurement. C'est juste les pensées de son cœur. Elle dit, « Mais comment est-ce possible que j'ai encore des désirs et l'Éternel, là, qui est devant Abraham, dit, pourquoi est-ce qu'elle a ri? Sarah, elle sait à ce moment-là. Ce n'est pas un visiteur comme les autres. Il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas entendu. Et il connaît précisément les pensées de mon cœur. C'est là que, à partir de ce moment-là, on l'appelle l'Éternel, et c'est là où, verset 17 encore, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham. Et donc, c'est l'Éternel qui visite Abraham. Mais qui sont les deux autres? Eh bien, chapitre 19, verset 1er, il est dit « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ». Et donc, ces trois hommes sont deux anges et l'Éternel. C'est la plupart des commentateurs qui s'accordent à dire qu'il s'agit vraiment d'une christophanie, c'est-à-dire d'une apparition de Christ avant son incarnation. Alors, on va voir que l'ami de Dieu, il accueille Dieu. On verra encore que l'ami de Dieu, il marche avec son Dieu. Et puis, enfin, qu'il intercède. Voyons l'ami qui accueille. Bien que ce soit toujours Dieu, ou l'Éternel, qui prenne l'initiative de la visite, Abraham accueille le Seigneur. Hein, et lorsque nous cherchons Dieu, parfois on a ce sentiment-là, je veux m'approcher de Dieu, je veux le connaître. En réalité, c'est déjà Dieu qui met dans nos cœurs cette pensée-là. C'est lui qui travaille déjà dans nos cœurs. Et nous, ne faisons que répondre, nos cœurs répondent à l'Éternel. C'est cette visite-là auquel on est, nous aussi, on est sujet à accueillir l'Éternel. Il faut noter l'empressement hein, dans ce passage, dans le verset 2, il leva les yeux et il courut au-devant d'eux. Verset 6, il alla promptement dans sa tente vers Sarah, vite, trois mesures. Et puis ensuite, verset 7, il courut à nouveau vers son troupeau. Et puis le serviteur qui devait se hâter d'apprêter le veau pour accueillir. Voilà l'accueil. S'il n'y a pas l'empressement, il n'y a pas véritablement d'accueil. Parce que quand on rencontre Dieu, alors on veut véritablement avoir cet empressement. A-t-il compris qui est l'invité de Marc qui s'approche de sa tente? Peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, ça reflète l'état de son cœur. Vous vous souvenez de ce passage en Hébreux, chapitre 13, et au verset 2. Hébreux 13, 2 dit « N'oubliez pas l'hospitalité. » Alors ça devrait être un encouragement pour nous à nous recevoir les uns les autres, à ouvrir nos maisons, à ouvrir nos cœurs, à visiter les gens. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et là, probablement, c'est à ce passage de Genèse 18, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence. Jésus, il explique à ses disciples, « Vous m'avez donné à boire, vous m'avez visité en prison, vous m'avez accueilli quand j'avais rien. » Alors les disciples ont dit, « Mais quand est-ce qu'on t'a vu faire ça? Quand est-ce qu'on t'a fait ça ?» Il dit, « Chaque fois que vous l'avez fait à un petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et Abraham, je pense que c'était son attitude. C'était pas calculé. Il a accueilli parce que dans son désir de recevoir, il a ouvert sa tente, il a ouvert sa maison pour pouvoir accueillir ses visiteurs. Il voulait les soulager, il voulait les encourager. Et c'est lui qui a le plus reçu, comme il nous est dit ici. Ce qui est remarquable, c'est qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu, le Dieu tout-puissant. Le Dieu omniprésent, omniscient, a été celui qui a fait cette déclaration. C'est Dieu qui dit, il est mon ami. C'est pas Abraham qui dit, moi je suis l'ami de Dieu, hein, vous savez. Là, c'est pas comme ça. C'est Dieu qui dit, Abraham, c'est mon ami. Vous imaginez la chose? C'est pas l'évaluation d'Abraham de sa relation avec Dieu, ni ce qu'il pensait de Dieu, non. C'est une déclaration que Dieu a faite à propos d'Abraham. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 8, on pense que Jacques fait la citation de ce passage, quand il dit qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Il dit, dans Ésaïe 41, verset 8, il dit « Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi et descendance d'Abraham, qui était mon ami. » Les enfants d'Israël étaient les serviteurs de Dieu. Ils étaient la progéniture d'Abraham, qui était l'ami de Dieu. Considérez juste un instant à quel point ces paroles sont remarquables. À quelle relation remarquable elles décrivent. Considérez qu'un être limité, un être physique et mortel, puissent être considérés par Dieu, le Dieu tout-puissant, immortel, omniscient, comme son très cher ami. Considérez aussi qu'un homme imparfait, fait de poussière de la terre, puisse être vu par le Créateur, le Dieu parfait et saint, comme quelqu'un avec lequel il pouvait avoir une amitié chaleureuse, durable, particulière. Waouh ! L'amitié de Dieu pour des êtres tels que nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un véritable privilège qui nous est fait lorsque Jésus nous appelle ses amis, lorsqu'il nous veut cette relation d'amis avec nous. Tout dans l'attitude d'Abraham révèle aussi l'honneur qu'il porte à ses invités. Et ça contraste avec l'accueil qui leur sera réservé dans le chapitre suivant à Sodome. Là, les gens voudront simplement les déshonorer. Je trouve que dans notre culture occidentale, on n'est pas très bon dans l'accueil. Quand on va en Afrique, là, on apprend ce que c'est que l'accueil. Malheureusement, quand les Africains finissent par arriver en Occident, ils oublient comment on accueille. Comment ils ont l'habitude d'accueillir là-bas. Donc, si vous voulez enseigner ça, ça serait formidable. Quand on accueille là-bas, il y a du temps qui est offert. Il y a une générosité qui est faite. Il y a un vrai honneur. Parfois, il y a des chants qui sont faits simplement pour vous accueillir. Parfois, il y a toujours un repas énorme pour vous accueillir. Des choses qu'ils ne mangent pas habituellement, qui vous sont réservées pour vous. Et ça montre tout l'honneur qu'ils portent à leurs invités, à leurs visiteurs. Et Abraham, là, il accueille, et il accueille comme on accueille au Moyen-Orient. Il accueille avec empressement. Il accueille avec une bassine, là. Il dit, on va vous laver les pieds parce que vous devez être fatigué de votre voyage. Vous allez vous rafraîchir. On va vous apporter un morceau de pain parce que certainement vous êtes fatigué. Vous allez vous mettre à l'ombre, là, et puis vous allez vous reposer en attendant le vrai repas. Et ça prend du temps. Vous imaginez la chose ? Aller apprêter un veau. Aller commencer des gâteaux, là, maintenant. Le repas a eu lieu plusieurs heures après, nécessairement. Et je trouve ça important dans notre monde occidental. On vit tellement dans l'urgence. On n'a pas le temps pour les personnes. On n'a pas le temps. On est pressé, mais pour développer une amitié, il faut du temps. Il faut prendre du temps les uns avec les autres. Le temps d'apporter de l'eau, de laver les pieds de ses invités, de leur donner un bout de pain, etc. Qu'ils fassent une petite sieste, ensuite que ça cuise, un veau. C'est pas du surgelé, là, un micro-ondes. Hein. Non, ça prend du temps. Et pour avoir Dieu comme ami, on a besoin de... On ne peut pas être pressé. On a besoin de prendre du temps avec lui. On a besoin d'ouvrir son cœur. On a besoin de... Il nous a laissé sa parole. On a besoin de la lire, de la méditer. On a besoin de comprendre ce qu'il est en train de faire dans notre vie. On a besoin juste de se poser, puis d'attendre, puis de comprendre comment il œuvre dans nos vies. L'été, la vie en Occident se ralentit un petit peu, sauf si on part dans l'urgence, dans les vacances, etc., qu'il faut vite, vite, vite faire les valises, et vite, vite, vite charger la voiture, et vite, vite, vite partir sur les routes, et être là, dans les bouchons, et vite, vite, vite courir à la plage, et vite, vite, vite... Si vous pouviez vous arracher de ça et puis prendre du temps, en particulier pour être avec Dieu, pour développer votre amitié avec Dieu. Lisez la parole, lisez d'excellents ouvrages qui vont vous permettre de développer ce temps avec Dieu. Pensez à Abraham, il accueille Dieu avec empressement, mais après il prend du temps avec lui. L'ami, aussi, il marche. On voit ça dans le verset, je vais essayer de me justifier un peu ici, verset 16, où il est dit « Ces hommes se levèrent pour partir, ils regardèrent du côté de Sodome, et Abraham alla avec eux pour les accompagner. » En fait, j'avais besoin d'un M surtout. Mais vous comprenez ce que je veux dire par marcher. L'idée, c'est de partager, d'avoir confiance, qu'il y ait une certaine... oui, d'ailleurs, la foi, elle est souvent comparée à une marche. Quand on a un ami, on le côtoie et puis on avance avec lui. Et là, ils sont un petit peu comme ils étaient avec Lot au moment dans le chapitre 14. Vous vous souvenez, il y avait cette dispute et puis Abraham a dit « Écoute, choisis où tu veux aller. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Et Lot était là, vers les chaînes de Mamré avec Abraham et puis il a regardé la plaine de Sodome et Gomorre. Il a dit « Waouh, ça c'est beau, j'y vais. » Et puis, on connaît la suite. Et là, Abraham est avec l'Éternel, les deux anges, et marche avec eux, et il va jusqu'à cet endroit où on domine la vallée. Et là, en contrebas, il y a les villes de Sodome, au loin, et Gomorre. L'ami, il aime ce que son ami aime. On dit souvent, les amis de mes amis sont mes amis. C'est vrai. Eh bien ici, Dieu ne peut pas envisager la destruction de Sodome et des villes environnantes où s'est installé Lot, le neveu d'Abraham et sa famille, sans le dire à Abraham. Et c'est certainement dans cet épisode que l'amitié d'Abraham et Dieu est la plus évidente. On sent vraiment une intimité entre Dieu et Abraham lorsqu'il dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je? C'est-à-dire, dans l'amitié, il y a nécessairement une transparence. On veut être authentique, on veut être honnête devant notre ami. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Jésus il dit la même chose en Jean 15. J'aimerais juste vous lire cela. Jean 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh ! C'est ça ce que Dieu fait avec nous. Il nous appelle ses amis parce qu'il nous a fait connaître les choses. Dieu pense tout haut dans les versets 17, 19, jusqu'à 19, il dit... On imagine bien l'Éternel marcher là et dire... est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui ont été faites. Et puis il se tourne vers Abraham et lui dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Et il dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement sur le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Et là, Dieu, il emploie une image, une manière de parler des hommes. Lui, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Sarah. Donc il sait exactement ce qui se passe. Il voit tout, il connaît toute chose. On ne peut pas le renseigner. Mais là, il dit, je vais quand même aller voir. Je vais quand même aller voir pour voir si, et vérifier si c'est vraiment aussi terrible que cela. Là aussi, il y a un orage dans chapitre 19. Donc on a l'orage aussi là. C'est chaque fois qu'il y a des jugements, comment on dit ça, des jugements sévères de Dieu, quand c'était le déluge, il a plu, maintenant il pleut, c'est... Bon, ça c'est de l'organisation. Et pourquoi est-ce que Dieu prend ce soin-là de révéler cela à Abraham? Il dit ça, et je pense qu'il y a deux choses en tête, parce qu'il dit, car j'ai choisi, je l'ai choisi, il va devenir une grande nation, et donc c'est comme si Dieu dit, je veux montrer à Abraham comment moi je fonctionne, pour qu'il comprenne comment est-ce qu'il doit fonctionner en tant qu'ancêtre d'une grande nation, et puis aussi parce qu'il doit transmettre à la génération à venir, à sa postérité, de savoir comment est-ce qu'on doit fonctionner. Vous savez, quand on n'apprend pas grand-chose par nous-mêmes. La plupart des choses que l'on apprend, on l'apprend simplement en imitant nos pères. Vous avez eu un père, il faisait comme ça, alors vous ne savez pas pourquoi, mais vous faites toujours comme ça. La chose, c'est qu'avec nos propres pères, ça ne marche pas toujours. Nos pères n'ont pas toujours fait convenablement les choses. Et parfois, le modèle qu'on a reçu de nos pères, il est justement à ne pas imiter. Alors c'est là que l'importance est grande d'avoir l'Éternel comme ami. Parce que c'est là où lui, il va nous instruire, il va nous enseigner pour qu'on comprenne comment vivre. Et lui, il est en train de dire, ma justice réclame que j'entre en jugement avec Sodome et Gomorre. Et il dit, ce que j'attends de toi, Abraham, c'est que toi aussi, tu sois juste et intègre. Tu exerces la justice, que tu réprimes le péché, pour que aussi tes fils, à leur tour, jugent le péché et répriment le péché. Et c'est ça toute la je crois, c'est pour ça que Abraham, que Dieu ouvre son cœur devant Abraham, pour que Abraham comprenne cela. Et puis enfin, l'ami de Dieu, il intercède. En fait, quand Abraham apprend les intentions de Dieu à l'égard de Sodome et les villes de la région, il se souvient de Lot et de sa famille. Et puis, il se souvient de tous les bergers de Lot. Il dit, mais ça fait tellement de monde, ces gens-là. Et on a marché ensemble, on a vécu ensemble, on était ensemble. Et puis quand Kedor Laomer les a embarqués, les a tous attrapés, les a emmenés en captivité, quand avec mes 318 serviteurs, j'ai couru après, je les ai rattrapés pour les délivrer. Il y a des liens qui se sont créés entre nous. C'est pas juste des murs que Dieu va détruire, mais c'est des gens. Et Abraham, il est là en train de penser, mais toute cette multitude qu'on a ramenée de la défaite là, lors de l'attaque de Kedor Laomer, ces gens-là vont périr. Mon neveu Lot, sa femme, ses fils, ses filles et ses gendres, ses filles encore qui sont célibataires, tout cela vont périr. Et il est ému ici. Et puis, il s'approche de Dieu et il s'approche avec un argument massu. C'est très fort, je trouve, cette approche d'Abraham au verset 23. « Feras-tu périr le juste avec le méchant ?» Il dit « Je te connais, tu es l'Éternel, tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste, tu ne peux pas ne pas faire de distinction. » Et donc, il plaide avec cet argument qui provient du caractère de Dieu lui-même. Dieu est juste et il ne peut pas faire périr le juste avec le méchant. Et puis ici, il est dit, dans le verset 19, il était dit, je l'ai choisi. Et je trouve ça très intéressant, cette expression-là. Parce que Jésus reprend la même expression après avoir dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et le verset suivant, Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Waouh ! Ça, c'est ce qu'avait expliqué James Lee Hutchinson dans son séminaire sur la prière, en citant John Piper. Il dit, Dieu nous a choisis pour que nous allions et que nous portions du fruit, pour que nous demandions au Père, pour que nous prions. Dieu nous a choisis pour que nous portions du fruit et pour que nous prions. Dieu nous a choisis pour que nous prions. Vous vous rendez compte de la chose? Et Dieu dit la même chose ici à Abraham. Il dit, Abraham, je l'ai choisi, et Abraham intercède. Jésus dit, ce sont mes amis, je leur fais connaître ma volonté pour qu'ils prient. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec Abraham. Abraham est l'ami de Dieu. Dieu lui fait connaître les choses pour qu'il prie. Vous savez quoi? La plupart des gens qui comprennent rien à l'élection disent, si on est élu, on n'a même plus besoin de prier alors. C'est exactement le contraire. L'élection nous pousse à la prière parce que Dieu nous a choisis. Alors Dieu nous transmet sa volonté pour que nous intercédions dans sa volonté. Il intercède en s'appuyant sur ce qu'il connaît de Dieu. Pour être un ami de Dieu, et c'est pour cela qu'il faut être un ami de Dieu pour pouvoir intercéder. Il s'appuie sur la justice de Dieu. Il ne demande pas à Dieu de changer son caractère ou de changer sa volonté, mais il lui demande de faire valoir son caractère juste. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande dans la prière. On ne doit pas intercéder pour que Dieu change ses plans. On intercède pour que le caractère de Dieu soit manifesté dans ses plans. Et il s'approche de Dieu avec humilité. Il dit, hein, c'est son ami, mais c'est son ami, c'est aussi Dieu, le Dieu tout-puissant, parfaitement saint. Lui, c'est un homme pécheur, il dit, hein, moi je suis poudre et cendre. Voyez-vous, lorsque Dieu fait de nous ses amis, il nous révèle ses projets, il nous montre une situation pour que nous entrions dans son œuvre en priant, en nous appuyant sur ce que l'on connaît de sa nature sainte, juste et miséricordieuse. Quand Jésus enseigne ses disciples sur la prière, il dit, ça c'est en Luc chapitre 11, il leur dit, voici une parabole pour vous encourager à prier. Il y avait un ami qui avait un ami qui lui rendait visite. Alors il est allé trouver un autre ami, le troisième ami, et lui a dit, mon ami, j'ai un ami qui vient d'arriver chez moi. J'ai besoin de toi parce que j'ai plus rien à lui offrir à manger. Et je veux l'honorer, je veux... Donne-moi trois pains. Je trouve ça fort que quand Jésus donne un enseignement sur la prière, il parle de trois amis. Et l'amitié de Dieu, elle doit nous pousser à intercéder. Quand Dieu fait de nous ses amis, il nous pousse et nous engage dans la prière. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à être là mardi soir cet encouragement qu'on va recevoir. En réduisant le nombre des justes de 50 à 10, Abraham semble être conscient à la fois de l'énorme méchanceté de ces villes concernées et puis aussi de l'inefficacité du témoignage de Lot. Et vous imaginez la chose, il dit, il y a probablement plusieurs centaines de personnes qui gravitent avec Lot. Et donc il dit, bon, peut-être qu'il n'y en a que 50 qui seront justes là-dedans. Et puis il dit, oh là là, mais si jamais il y en manquait, ou si jamais... Et il commence à plaider en réduisant la chose. Et puis il s'arrête à 10. Parce qu'il est dit qu'il y avait Lot et sa femme, qu'il avait des fils, au moins deux, qu'il avait des gendres, au moins deux, avec ses marié avec ses filles, et puis il est sorti avec deux de ses filles. Donc, dans la pensée d'Abraham, le plus petit nombre qui soit, juste la famille toute proche de Lot, c'est 10 personnes. ne peux pas imaginer que parmi ces 10, que ces 10-là ne soient pas justes. Dans le chapitre 19, verset 24, il est dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre, juste après que Lot, sa femme, et ses deux filles célibataires soient sorties. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme une fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa ces villes où Lot avait établi sa demeure. Il n'y avait même pas 10 justes. Mais Dieu, et aussi Dieu a détruit ces villes. Cependant, la prière d'Abraham fut exaucée. Il est dit ici que Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. La femme de Lot quitta la ville, mais son cœur y restait encore et elle tomba sous le jugement de Dieu. Et Jésus y reprend cet avertissement et dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », simplement pour tirer un avertissement pour tous ceux qui traitent à la légère son offre de salut. Venez à moi. Dans nos amitiés en général, et dans nos amitiés avec Dieu en particulier, notre amitié avec Dieu en particulier, nous sommes défaillants. Nous manquons à nos devoirs d'amis. Dans l'accueil, le temps qu'on est prêt à accorder à Dieu, à notre ami. Dans notre marche, c'est-à-dire dans le partage, la transparence vis-à-vis de Dieu. Dans notre intercession, on est défaillant. Et c'est pourquoi l'Éternel rappelle Dieu, dans le verset 9 à 14, la promesse d'un fils faite à Abraham. On peut dire que toute l'alliance, toute l'amitié de Dieu avec Abraham repose sur la promesse de ce fils. Et c'est un fils impossible. Sarah, elle était stérile. Maintenant, elle a 90 ans. Ça fait beaucoup d'années où on est stérile. Et maintenant, elle a 90 ans, elle est ménopausée. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Elle n'a même plus de désir. Et Dieu lui dit, je vais te donner un fils. C'est vraiment le fils impossible. Mais c'est le fils promis. C'est le Fils qui préfigure Jésus-Christ. C'est le Fils ancêtre de Christ. Du Fils le plus précieux qui soit, le Fils de Dieu, venu pour nous sauver. Et quand l'Éternel rappelle la promesse, il dit, y a-t-il... Verset 14, « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Vous savez, ça c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais au moment où l'ange Gabriel va annoncer à Marie, « Tu vas être enceinte sans connaître d'homme, un fils impossible. » L'ange Gabriel lui dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Car rien n'est impossible à l'Éternel. C'est le Fils dont on a le plus besoin. Le Fils qui nous sauve. Le Fils dont l'humanité s'étonne encore. Qu'un Dieu si grand, un Dieu si juste, un Dieu si puissant envoie son Fils pour mourir à notre place, pour conserver notre amitié. C'est extraordinaire. Y a-t-il quelque chose de plus étonnant que cela ? D'autres traductions disent merveilleux. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que cela ? Avoir dans la personne de Jésus-Christ un si grand sauveur. Un fan, il rêve, il a un rêve impossible. Et son rêve, c'est être l'ami de la star. Passer du temps en tête à tête avec la star. Partager avec elle, travailler avec elle peut-être. Mais c'est impossible. La star ne peut pas être l'ami de milliers de fans. Mais c'est possible pour Dieu de développer une amitié avec chacun des millions qui s'approchent de lui par Jésus-Christ, comme si nous étions son seul ami. Et c'est cela qui est merveilleux dans l'amitié avec Dieu, c'est que vous pouvez être son plus proche ami. Et moi, je peux être son plus proche ami. On peut tous développer une intimité, une amitié, une proximité avec Dieu. Voilà, qui ne souffre aucune concurrence parce que l'ami est Dieu et qu'il a cette capacité à être notre ami comme personne. Que Dieu nous aide à comprendre l'amitié avec Dieu, puis qu'il nous permette de développer cette amitié, de prendre ce temps, de marcher, d'intercéder, d'entrer dans les plans de Dieu. Amen.